France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Téhéran a envoyé une douzaine de missiles sur deux bases utilisées par l'armée américaine en Irak cette nuit. A priori, selon Washington, il n'y aurait pas de blessés. Une attaque en forme de représailles, 5 jours après le décès du général Qassem Soleimani à Bagdad. Attaque des gardiens de la révolution. Ils ont également menacé cette nuit de frapper Israël et les alliés des États-Unis, demandant aux Américains de retirer leurs militaires de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme, lui, que son pays a mené cette nuit et a terminé les représailles proportionnées, dit-il, à l'assassinat du général. Dans le même temps, à Washington, Donald Trump annonce qu'il prendra la parole à la mi-journée, tout à l'heure. Un Boeing 737 d'une compagnie ukrainienne s'est écrasé ce matin, juste après avoir décollé de Téhéran. Il transportait 170 passagers, selon l'agence de presse iranienne ISNA. Selon la télévision iranienne, tous les passagers, tous les membres de l'équipage seraient morts. Le Croissant Rouge estime aussi qu'il n'y a aucune chance de retrouver des passagers en vie ce matin. En Espagne, après des mois de blocage politique, le socialiste Pedro Sanchez obtient sur le fil la confiance des députés pour se maintenir au pouvoir. Cela s'est joué à 2 voix près au Parlement espagnol. Pedro Sanchez pourrait donc former un gouvernement de coalition avec la gauche radicale de Podemos. Les proches de Cédric Chouvia, livreur de 42 ans, mort vendredi après un contrôle de police. Ses proches dénoncent une bavure policière. L'autopsie dévoilée hier révèle une asphyxie avec une fracture du larynx. Et puis notez que pour la reprise des négociations entre le gouvernement français et les partenaires sociaux sur la réforme des retraites hier, l'exécutif a fait un pas vers les syndicats réformistes et notamment vers la CFDT. Le Premier ministre Édouard Philippe propose des discussions sur le financement du futur système, discussion qui pourrait avoir lieu vendredi.
Depuis 7 ans, la France a été touchée par 18 attaques terroristes islamistes. L'attentat de janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo marque un tournant. Que devient le journal? Comment vit-on en France avec la menace terroriste? Comment se sont reconstruites les victimes?
Les victimes sont l'outil pour frapper une société. Tout le sens du combat que je mène aujourd'hui, c'est de montrer à quel point non seulement les victimes ont un contentieux bien sûr avec les terroristes, elles ont aussi un contentieux avec la société elle-même.
Vivre avec le terrorisme, une série documentaire d'Alain Lefkovitch et Séverine Cassard, cette semaine à 17h et sur franceculture.fr. 1977 en Angleterre, quelques jeunes gens énervés sonnent le glas des 30 Glorieuses et de leurs promesses de confort matériel. T-shirt déchiré, jeans serrés, Doc Martens aux pieds, cheveux orange, piercing. Leur doigt d'honneur à la bonne société, la musique punk, se répand comme une traînée de poudre. Je suis punk, un feuilleton de Caroline de Kergariou, cette semaine à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le réveil culturel. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un film, un film noir que je vous recommande vivement. C'est peut-être le grand film de la rentrée. À la réalisation, comme tous les jours, Vincent Abouchard. Cette émission préparée par Corinne Amar et mise en son par Jordan Fuentes. Un flic corrompu travaille en douce pour les mafieux sur lesquels son équipe de stup de Bucarest mène l'enquête. Pour communiquer entre eux, les gangsters utilisent, ou plutôt sifflent, un drôle de langage imité de celui des oiseaux des îles Canaries. Les siffleurs, à tout d'un film noir, mais ce n'est pas que ça, et son réalisateur, Corneliu Pourambouillou, est là avec nous pour nous en parler.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Everything we speak can be whistled.
Which is? Mama.
If the police hear the language, they will think the birds are singing.
The plan is simple.
We need to kidnap him.
Mă scuzați că m-am nervat așa.
Nu joci rău. Unde sunt cele 30 de milioane?
Bonjour Cornelius Pourambouillou.
Bonjour, merci pour l'invitation.
On parle beaucoup de langues dans votre dernier film, Les Siffleurs, mais une langue particulièrement, celle qu'on ne maîtrise pas, que seuls les mafieux de votre film maîtrisent, cette langue, le silbo, ce langage sifflé, bien sûr, c'est une langue qui existe.
Elle existe.
Ouais, encore aujourd'hui.
Oui, oui. Une langue qui est utilisée à La Gomera, une île aux Canaries. Et oui, j'ai vu une émission de télé il y a 10 ans.
Et ça vous a marqué?
Oui.
Et vous-même, vous comprenez cette langue? Vous sifflez des...
Je comprends des choses, mais je sais pas.
Ouais.
Oui. Oui.
Vous comprenez?
On va essayer Toufik.
Oui. Ça c'est mon nom?
Oui. Oui.
Bon, en tout cas, c'est un film noir des plus réjouissants parce que il respecte à la perfection les codes du film noir, Les Siffleurs. Et il y a plein de suspense à l'intérieur de ce film. Là aussi, on est dans l'architecture d'un film noir, mais vous en profitez pour dire autre chose, pour parler de la corruption, par exemple.
Oui, c'est un film noir. C'est un film sur les gens qui ils croient plus au langage. Chacun il a son agenda et c'est dans cette veine là, oui.
C'est parti d'où cette idée du film Les Siffleurs? Mis à part de oui. Ce documentaire que vous avez vu sur le silbo, on va y revenir.
J'ai vu. C'est aussi un personnage qui. J'avais eu dans un autre film policier adjectif, il s'appelle. C'est un film que j'avais fait il y a 10 ans. Et c'était un personnage qui avait une espèce de idéologie sur le pouvoir. Et quand je commençais d'écrire le scénario, cette personnage m'a toujours resté dans ma tête comme ça. Je dis, son idéologie ne peut pas durer. C'était sur une idéologie de qu'il voyait, c'était un état de pouvoir, un état policier. Il avait, dans ces films-là, c'est un film qui parle beaucoup sur les concepts de conscience, pouvoir politique, l'État. Et je me suis dit que cette espèce d'idéologie qui n'a pas duré. Et au début, je me suis dit, OK, comment ça serait de retrouver ce personnage 10 ans après? Complètement perdu,
désabusé
dans un monde complètement différent.
C'est ça l'histoire. C'est l'histoire quand même d'un inspecteur de police de Bucarest, Christy, qui est tout à la fois désabusé, qui ne croit plus en la justice en réalité et qui va devenir corrompu. Et il est embarqué par une femme fatale, parce que comme dans chaque bon film noir, il y a une femme fatale. Cette femme fatale s'appelle Gilda. C'est pas un hasard. Il y a beaucoup de références effectivement au film de genre dans votre film Les Siffleurs. En est lieu pour Ambouillou. Alors, on se retrouve donc sur l'île de La Gomera et il doit apprendre avec les mafieux le silbo, donc ce langage sifflé ancestral, et ben dans le but d'aider les mafieux à libérer leur chef qui est le seul à savoir où il a planqué les 30 millions d'euros issus d'un trafic de drogue. C'est l'histoire du film. À partir de cette histoire, vous profitez pour faire une galerie de portraits des policiers de Bucarest, de vous rappeler de ce que ça peut être, justement, la mafia à l'heure de la grande Europe ou de la mondialisation, parce que ça voyage dans votre film. Et puis surtout, vous jouez aussi avec les cinéphiles. En venant voir ce film, il y a toutes les références au film noir. Et en même temps, bien sûr, comme vous êtes roumain, Corneliu Porumbuiu, on attend aussi votre avis sur la corruption qui gangrènerait les pays de l'Est plus que ceux de l'Ouest, paraît-il. Eh ben non, justement, vous ne répondez pas à cette question parce que tout le monde, flic ou mafieux, est assez corrompu dans votre film.
Oui, c'est vrai. Moi, j'étais plutôt intéressé... Et j'ai travaillé sur cette idée que même mon officier, le personnage principal, il doit avoir accès à une espèce de paradis.
Mais alors quel genre de paradis?
On va voir à la fin du film. Vous allez voir à la fin du film.
C'est-à-dire, je veux dire, pour vous, est-ce qu'il y avait aussi une dimension de critique sociale à travers ce film noir que vous avez réalisé Cornelius Porumbuiu?
C'est toujours ça, oui. C'est toujours ça. Même le fait que... même le film noir classique, non, à la fin, c'était un film sur la dépression, les gens qui ont plus de, comme ici, le plus important sur l'argent. Ils croient plus en communication. Chaque fois, ils utilisent le langage pour pour créer un avantage sur l'autre. C'est un peu ça, oui. À la fois, c'est un critique aussi, oui.
C'est une île du paradis où les hommes le sifflent aussi, chantent Féloche dans cette chanson Cornelius Bambouillou. Vous avez décidé que ce paradis allait être le paradis des mafieux dans votre film Les Siffleurs qui sort aujourd'hui. Puisque je rappelle l'histoire, c'est quand même des mafieux qui vont utiliser cette langue pour pouvoir communiquer entre eux et arriver à faire évader leur chef, le seul et le dernier à savoir où est planqué les 30 millions d'euros issus d'un trafic de drogue. Alors, ils ont avec eux, on l'a dit, un inspecteur de police corrompu, personnage très complexe, mais il y a aussi une femme fatale. Il y a une drôle de panoplie de personnages dans votre film, Cornelius Bambouillou.
Oui, c'est... J'ai eu cette idée dans cette film qu'il y a des gens qui vont utiliser non des personnages du film, par exemple Gilda, c'est une femme qui doit cacher sa vraie identité même en face de mafieux, même en face de la police parce qu'elle est surveillée. Et je me suis dit que ce sont des gens qui vont font appel à l'histoire du cinéma pour se cacher parce que de plus en plus non. Un autre jour, on utilise les caméras pour surveillance. Et j'ai beaucoup aimé cette idée de jouer sur ça. Comme le cinéma, il fait partie de notre vie. Et, on va dire que j'ai des personnages, des mafieux dans mes films cinéphiles.
D'accord. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de ceux qui continuaient à utiliser le silbo?
Comme il fait partie du patrimoine UNESCO, ils font des cours avec les enfants. Les enfants, ils apprennent le langage sur l'île. J'étais en contact avec le chef du département de langage sifflé. Et lui, il est venu à Bucarest pour faire des cours avec mes acteurs. Ils ont appris le langage sifflé, aussi les acteurs espagnols, ils ont appris.
Et vous-même?
Moi, je ne suis pas assez intelligent comme mes acteurs. Ça durait trop.
Ouais.
Je connais toutes les règles, mais je dois revenir sur ça.
Vous respectez, on l'a dit, et plus d'une fois, toutes les règles du film noir pour les siffleurs, Corneliu pour un bouillou, ça ne vous empêche pas d'être dans votre veine assez comique, parce que c'est un film aussi très drôle.
Ça vient naturellement.
Comment ça vient naturellement? Vous voulez dire en tant que Corneliu pour un bouillou ou en tant que
le
cinéaste
comique.
Rubin?
Les deux, je crois que c'est un côté culturel.
Ouais.
Et aussi, c'est... Je crois que nous, les Romains, on a un veine de l'absurde noir. Je crois que tous les films romains, ils ont ça. Et à la limite, je crois que c'est quelque chose de culturel. C'est pas... À la limite, je peux dire que je suis un peu plus dans le comique qu'un de mes collègues. Mais je crois que tous les films romains, ils ont un côté comique noir.
Vous êtes le
absurde.
Plus comique, le plus absurde de la nouvelle vague du cinéma roumain, ce que vous voulez nous dire, Corneliu pour vous?
Je sais pas si le plus, mais l'absurde, je crois, c'est quelque chose de très assez roumain. Et irlandais.
Et irlandais, pourquoi vous avez été nourri à quel genre de littérature et de cinéma, par exemple, Corneliu pour Ambouillou, avant de revenir à votre film, Les Siffleurs?
Moi, j'ai lu beaucoup de littérature russe, le théâtre russe, littérature roumaine aussi. C'est aussi la littérature française et tout ça. Et le cinéma, moi j'aime beaucoup Romère, par exemple. Il a tellement de grands réalisateurs. Le cinéma français, il était très important. Le Godard, pour nous. Le Melville aussi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Après ça, c'est les classiques américains aussi. C'est Buster Keaton.
On retrouve Buster Keaton dans votre film. L'esprit de cet humour-là, impassible, est très profond dans votre film Les Siffleurs.
C'est un cinéaste que j'aime beaucoup, oui, Buster Keaton. Je crois que tous mes personnages, ils ont, oui, une espèce de sérieuxité comme ça.
Impassible à la manière de Buster Keaton, ouais.
Ouais, et ils vivent dans un monde chaotique, mais eux, ils croient qu'ils contrôlent leur destin.
Il y a aussi des scènes d'action dans votre film, avec des moments très forts, avec une intensité effectivement portée par des comédiens qui sont très bons, mais ça, c'est pas la première fois qu'on voit des comédiens très bons dans un film, mais qui sont effectivement inattendus. Hein. Je veux dire que tous les personnages ne ressemblent pas au caractère habituel du film noir.
Ben, chaque personnage, à la fin, il joue un rôle. Et à la limite, pour ça, des fois, ils vont changer tout d'un coup. C'est comme le film, quand je réfléchis au film au début, je voulais avoir comme une espèce de miroir, non? Beaucoup de miroirs, comme dans les scènes de Lady from Shanghai, non?
Oui.
Tu sais jamais qu'est-ce qui
va se passer. Qui, ouais, et quel reflet. Il y a beaucoup de miroirs, il y a beaucoup de caméras de surveillance. Et au milieu de ce dispositif où tout le monde essaye d'épier tout le monde, eh ben, il y a votre caméra, il y a votre cinéma. Alors justement, Corneliu pour un bouillou, que peut faire aujourd'hui le cinéma dans un monde saturé d'images?
Je crois que peut changer le cinéma, peut changer une vie, peut changer... Pour changer des destins, je sais pas.
Vous vous mettez en opposition à toutes les images qu'on voit par le biais des chaînes de télévision ou des images qui nourrissent le web. Est-ce que vous vous mettez en opposition à ces images-là quand vous faites un film de cinéma, Corneliu pour un bouillou?
Oui, parce que c'est tout un discours derrière. D'abord, c'est l'histoire, non? C'est le scénario. Après ça, c'est tout en construction par rapport à l'histoire que tu veux dire. Chaque film, c'est en construction à la fin, qui dépend plutôt de... C'est comme un langage, non? C'est de la syntaxe que tu proposes.
Can't deny what I can't. cares for me, but I wanna be free. Well, I got rhythm.
Tout le monde siffle dans votre film Les Siffleurs, Corneliu Pambuyu, invité du Réveil culturel à l'occasion de la sortie donc de votre film aujourd'hui. On a dit un film noir avec des mafieux, avec aussi des personnages féminins très très forts, hein, que ce soit la femme fatale, celle qui est du côté des mafieux, enfin qui contre tout le monde, en fait, quand elle est pour elle, hein, surtout. Hein.
Oui.
Oui. Et puis aussi des personnages féminins du côté des flics, des policiers.
Oui, les plus forts personnages dans ce film sont les femmes et sa mère aussi. J'ai trois personnages féminins très forts. C'est une espèce de... d'une espèce d'imaginaire de personnage principal, non? Et je crois que c'est quelque chose de culturel aussi, non? On est latin et on a... Je crois que les femmes sont les plus fortes dans la société du monde.
Les Siffleurs a été très applaudi lors de sa projection au dernier festival de Cannes. Il a été présenté. Est-ce qu'il est sorti en Roumanie encore ou pas encore?
Oui, il a été sorti en septembre. Yeah. Il a fait 30 000. C'était bien, oui. Comme toujours, comme cinéaste, j'attendais des millions de spectateurs, mais c'est pas possible.
Et est-ce que toutes les références ont été relevées? On a parlé des références du film noir, d'Hitchcock, on peut le citer, de Buster Keaton, dans la manière qu'ont vos personnages d'être vraiment impassibles et en même temps très drôles. On peut aussi faire le rapprochement avec l'univers d'Edward Hopper dans votre film Les Siffleurs.
Oui, c'était une des sources d'inspiration pour le visuel du film.
Ouais.
Oui. C'est quelque chose qui, la façon de l'ombre, comment on utilise la lumière, c'était quelque chose, l'esprit qu'on cherchait aussi pour, dans le classique du
film noir.
Oui, oui. Et c'est toujours cette espèce d'attente et les couleurs, parce qu'on a, le film il est divisé par chapitre. Mm-hmm. Chaque chapitre elle a une couleur qu'on peut dire, c'est principale, et toutes les couleurs enchaînées sont les couleurs
de l'arc-en-ciel.
L'arc-en-ciel.
Et chacun des trois chapitres est porté par un personnage, d'ailleurs, parce qu'on va voir ce film de différents points de vue. En revanche, pour la musique, vous êtes sorti un peu du film noir classique, puisqu'il y a du rock, il y a des musiques improbables. On a écouté Iggy Pop aussi dans ce film. Quand vous avez choisi les films pour votre film, Les Siffleurs?
Au début, comme j'utilisais pas beaucoup de musique dans mes films précédents, je me suis fait plaisir ici. Parce qu'il y a beaucoup de musique. Non, tout a commencé par c'était cette motel opéra que je voulais créer un personnage. Et j'ai utilisé Baccarola là-bas et c'est une musique que j'aime beaucoup. Et après, c'est pour le début, Passenger me donnait le bon ton pour le film, et aussi c'était ça annonçait un peu parce que c'est une espèce de voyage, nous, de personnage principal, et les mots de chanson sont pertinents pour mon histoire, et aussi ça donnait un espèce de ton que je voulais pour le début du film. À la fin, par exemple, dans le jardin à Singapour, moi, je voulais utiliser au début Inagada da Vida. Mais comme là-bas, j'ai trouvé la musique qui c'était lié aussi aux lumières, aux arbres, parce que c'est aussi un spectacle de lumière. À la fin, j'ai décidé de garder la musique qui était là-bas.
Vous avez fait des études de théâtre et de cinéma à Bucarest, Corneliu Pambuyu. Est-ce que nous, on vous connaît en tant que cinéaste, hein, vos films sont vus en France, ils ont un certain succès, ou du moins dans les grands festivals, comme Cannes, qui vous a plutôt suivi depuis le début, hein, puisque j'ai eu l'occasion de voir vos films au Festival de Cannes. Je me souviens de 12h08 à l'Est de Bucarest, qui avait obtenu la Caméra d'Or, donc le prix suprême pour un premier film. Vous êtes revenu cette fois-ci en compétition officielle cette année avec Les Siffleurs. Ces films qu'on voit ici, est-ce qu'ils résument bien toute votre carrière en Roumanie, ou est-ce que vous avez par ailleurs une autre œuvre théâtrale ou de court-métrage?
Non, j'ai... l'école, ça s'appelle de théâtre et cinéma, mais à la fin, j'ai fait des études de cinéma.
D'accord.
Parce que c'est une université qui est dedans, sont deux écoles différentes. C'est du théâtre et du cinéma. Et moi, j'ai fait des études du cinéma. J'ai eu des propositions de faire du théâtre, mais non, je préfère le cinéma. Et là, comme j'écris aussi mes scénarios, j'ai beaucoup de boulot à faire. Oui, j'aime trop le cinéma.
Et le football, si j'ai bien compris, parce que je vous avais réalisé quand même quelques documentaires sur le foot.
Oui, mon père, il était arbitre de foot.
Et, il sifflait lui aussi.
Oui, oui. Pas à la maison, sur le terrain. Mais, et moi, j'ai fait aussi du foot aussi quand j'étais petit. Ouais. Et c'est, on peut dire un peu que j'ai grandi à côté du terrain de foot. Et,
Et qu'est-ce qui a été décisif dans votre choix de devenir cinéaste, Corneliu Porumbuyu?
La Dolce Vita.
Waouh! La Dolce Vita?
Oui, parce que
j'ai commencé... Racontez-moi quand vous avez vu ce film et dans quelles conditions vous l'avez vu.
J'ai commencé de faire des études du management à Bucarest. Moi, je suis d'une petite ville de l'Est de Roumanie. J'aimerais pas trop le management. Et une fois, j'étais allé au cinémathèque et j'ai vu La Dolce Vita. J'ai tellement aimé. Et après ça, j'ai continué à aller à la cinémathèque et je me suis dit que je dois essayer ça.
À cause de Fellini, donc. Vous êtes venu cinéaste à cause de Fellini?
Oui, je crois que oui. Avant, je voyais des films, beaucoup de films, plutôt, on parle des années 90 en Roumanie, 94 surtout. Je voyais beaucoup de films sur les VHS, des films de série B et C américains, j'aimerais ça, mais... La Dolce Vita, j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné l'envie d'aller plus souvent à la cinémathèque et quelques semaines après, j'étais plus à la cinémathèque, à l'école de management.
Mais Les Siffleurs, c'est beaucoup plus un hommage au film noir, au film américain, non?
Ouais, c'est assez intéressant. Quand je me suis décidé que je veux faire un film sur les gens qui vont toujours avoir... tromper l'autre, ils voulaient tromper l'autre, ils vont plus croire dans le langage, ils vont avoir, ils vont tourner tous autour de 30 millions, cyniques aussi. Je me suis dit, ok, je dois revoir les films classiques noirs, les films noirs qui, un d'entre eux, je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Et quand j'ai vu tous ces films...
Quel est ce film-là que vous n'aviez pas vu depuis 15 ans?
C'est Laura, par exemple, Double Indemnity. Mm. Moi, j'aime beaucoup The Third Man. Qui je vois assez souvent, The Night of the Hunter, c'est un film...
La Nuit du Chasseur, bien sûr, grand film.
Ouais, et je vois de temps en temps, mais aussi The Big Sleep.
Le Grand Sommeil, ouais.
Ça c'est un grand classique noir que j'aime beaucoup.
Ouais.
Et quand je me suis retourné, j'ai vu dans une période assez courte tous ces films noirs. Je crois que j'ai eu une espèce de nostalgie aussi. Parce que la plupart d'entre eux, je l'avais vu il y a 15 ans. Ça m'a...
Ouais, la Cinémathèque depuis qu'elle reste.
Oui, et ça m'a... Même plus, tu vois, 20 ans. Et je crois que ça m'a... Ça sent une espèce... Oui, dans le film, une espèce de... Un côté, je crois, plaisir, jeu. Oui.
Et un plaisir contagieux, parce qu'on a beaucoup aimé votre film, Corneliu Porumbuyu, Les Siffleurs, qui sort donc aujourd'hui et qui était en compétition officielle au Festival de Cannes cette année. Merci d'être venu.
Merci.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Dimanche 12 janvier à 11h, en direct et en public de l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris, l'esprit public d'Émilie Aubry. Avec Christine Ockrent, journaliste, Daniel Cohen, économiste, Dominique Régnier, politologue, directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Plantu, dessinateur au Monde. Entrée gratuite, réservation au 01 44 85 40 40. Plus d'infos, franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. L'Iran a frappé cette nuit des bases abritant des soldats américains en Irak. Des raids en forme de représailles, 5 jours après la mort du général Soleimani. Le président américain Donald Trump prendra la parole à la mi-journée tout à l'heure. Nous irons à Washington dans cette édition. Reportage ensuite en Australie où les habitants continuent de lutter contre les flammes. 8 millions d'hectares ont brûlé dans les incendies depuis le mois de septembre. La famille dénonce une bavure policière. Un homme de 42 ans est mort vendredi après avoir été interpellé par la police à Paris. L'autopsie a révélé hier une asphyxie avec une fracture du larynx. La réforme des retraites en France, enfin. Les fonctionnaires auront-ils la possibilité de choisir une retraite progressive comme dans le privé, avec du temps partiel en fin de carrière? Des négociations ont lieu aujourd'hui à ce propos. L'Iran a donc riposté contre les États-Unis. 5 jours après l'élimination du général Qassem Soleimani, le pays a envoyé cette nuit des missiles contre des soldats américains en Irak. Téhéran a très vite revendiqué ces raids qui ont touché 2 bases américaines, Grégory Phillips.
Ces 15 missiles balistiques ont été lancés par les gardiens de la Révolution et ils se sont abattus sur 2 bases en Irak qui effectivement abritent des soldats américains, Erbil dans le nord du pays et Al-Assad dans l'ouest. Clairement, c'est une réponse de Téhéran à l'assassinat ciblé du général Soleimani il y a 5 jours. Les missiles se sont abattus à 1h20 du matin, heure de Bagdad, à l'heure précise de la frappe américaine qui la semaine passée a tué ce général. A priori, l'attaque n'a fait aucune victime, ni irakienne, ni américaine. Et 4 heures après les frappes, Donald Trump réagit sur Twitter. « Jusqu'ici, tout va bien », écrit le président des États-Unis, qui implicitement confirme qu'aucun militaire américain n'a été touché. Et Trump promet une déclaration pour ce mercredi matin. La réaction de la Maison-Blanche est donc plutôt mesurée. Et de leur côté, les Iraniens, par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Zarif, disent que l'opération est terminée, qu'ils ne veulent ni guerre ni escalade. Washington et Téhéran, chacun a frappé une fois et semble attendre un peu maintenant avant de prendre le risque de déclencher quelque chose de beaucoup plus grave.
Et à l'instant, la télévision publique iranienne annonce, contrairement à ce que disait Donald Trump cette nuit, que les attaques iraniennes contre des cibles américaines ont fait cette nuit 80 morts. Information évidemment à vérifier. C'était Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Nous l'avons appris il y a à peine une heure, un Boeing 737 appartenant à la compagnie ukrainienne International Airlines s'est écrasé ce matin, peu après avoir décollé de Téhéran en Iran. Au moins 170 passagers étaient à bord, selon l'agence de presse iranienne ISNA. Tous seraient décédés. Les feux continuent de ravager l'Australie où 8 millions d'hectares sont partis en fumée depuis le mois de septembre. Notre correspondante a rencontré pour France Culture un homme qui a combattu les flammes pendant 12 heures pour défendre sa maison. C'est un reportage tourné dans le village de Corbago sur la côte sud-est de l'Australie. Il est saigné et Gaël Joly.
On n'a jamais vécu une telle catastrophe.
Avec sa carrure de colosse et son air de cow-boy, Roland se croyait peut-être invincible, mais son face-à-face avec les flammes l'a ébranlé.
Je me suis battu 12 heures à combattre le feu avec un tuyau d'arrosage. J'étais porté par l'adrénaline, je ne pensais qu'à ça, survivre. C'était horrible. Personne ne devrait voir ça. Pour moi, c'était comme être plongé dans un terrain de guerre.
Comme tous les habitants de Cobargo, Roland avait pourtant ordre d'évacuer son restaurant situé en plein milieu du village, mais il a désobéi.
Vous avez décidé de rester.
Parce que je devais me battre pour protéger tout ça, et mes 2 voisins aussi. L'un habite Sydney, l'autre Canberra, ils ne sont pas là. Et si je ne m'étais pas battu, le feu serait venu.
Roland passe désormais ses journées dans la cuisine de son restaurant.
Je suis très occupé là, vous voyez, je cuisine pour des gens qui viennent de perdre leur maison.
Il attend secrètement le coup de fil de ses voisins, qui visiblement n'ont pas encore pris le temps de décrocher leur téléphone.
C'était Gaël Joly avec Arthur Gerbeau en Australie. Il s'agira de sa première apparition publique depuis sa fuite vers le Liban. Carlos Ghosn donnera en début d'après-midi tout à l'heure une conférence de presse depuis Beyrouth. L'ancien dirigeant de Renault-Nissan doit s'expliquer sur son départ du Japon où il était assigné à résidence avant un procès pour malversation financière. Son équipe de communication a méticuleusement organisé le processus d'accréditation des journalistes qui seront autorisés à participer à cette prise de parole. Elle est évidemment très attendue de Tokyo à Beyrouth en passant par Paris.
Cédric Chouvia a été victime d'une asphyxie avec fracture du larynx. Ce sont les premiers éléments de l'autopsie communiqués hier par le parquet de Paris. Cédric Chouvia est un homme de 42 ans, mort vendredi dernier après une interpellation par des policiers à Paris. Voici les faits avec Antoine Marette.
Cédric Chouvia était livreur, il travaillait en scooter. Vendredi dernier, dans la matinée, il est l'objet d'un contrôle routier près de la Tour Eiffel. Très vite, le ton monte. Cédric Chouvia décide de filmer son interpellation avec son smartphone, tout comme d'autres personnes présentes sur place. Sur les images, on le voit ensuite à terre, sur le ventre. Il se débat sous le poids de trois policiers. Cédric Chouvia est ensuite transporté en urgence à l'hôpital Pompidou où il décède deux jours plus tard. De quoi est-il mort ? Les premiers éléments de l'autopsie révélés par le parquet de Paris évoquent une asphyxie avec fracture du larynx. Pour l'avocat de la famille, maître Harry Halimi, ce sont probablement les gestes effectués par les policiers qui sont à l'origine de ce décès.
On peut dire aujourd'hui que si Cédric Chouvia est mort, c'est parce que les policiers ont pratiqué probablement une clé d'étranglement, mais également un plaquage ventral au sol à trois pendant un certain temps. Ce que l'on savait de la préfecture s'est avéré faux, à savoir qu'il y aurait eu une interpellation liée à un caractère agressif, violent, qu'il aurait fait trébucher des fonctionnaires de police et qu'il aurait eu un malaise cardiaque spontané non lié à l'intervention des fonctionnaires de police.
La famille de Cédric Chouvia a déposé une plainte pour violence volontaire commise par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Édouard Philippe fait un pas vers la CFDT et propose de nouvelles discussions vendredi. Le Premier ministre a accepté hier l'idée d'une conférence sur le financement du futur système de retraite. C'est ce que demandait la CFDT. La question de l'âge pivot, en revanche, n'est pas retirée du texte pour le moment. Cela reste donc un préalable. C'est ce qu'ont souligné les syndicats réformistes. Un appel à la mobilisation nationale est toujours lancé pour demain jeudi par l'intersyndicale CGT, FO, Solidaire, CFE-CGC et FSU. Et d'ici là, les négociations se poursuivent branche par branche, ministère par ministère. Ce mercredi, les syndicats de fonctionnaires sont invités par leur secrétaire d'État, Olivier Dussopt, et celui chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Force ouvrière et solidaire ont décidé de boycotter ce rendez-vous qui doit aborder les questions de pénibilité et de fin de carrière pour les fonctionnaires. Il sera notamment question de la retraite progressive. Catherine Pétillon.
Le principe, c'est de continuer à travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une partie de sa pension et donc de continuer à cotiser. Quand on s'arrête complètement de travailler, la retraite est recalculée. Dans le privé, il est possible d'opter pour la retraite progressive à partir de 60 ans, mais cela ne concerne qu'environ 18 000 salariés, entre autres parce qu'il faut l'accord de l'employeur et parce que le dispositif reste peu connu. Si la FSU reste très opposée à la réforme des retraites dans son ensemble, elle reconnaît qu'ouvrir ce dispositif aux fonctionnaires pourrait être intéressant, à condition que cela soit vraiment un nouveau droit, avertit Benoît Teste, son secrétaire général.
Jamais le gouvernement ne précise si cette possibilité serait ouverte avant 62 ans. Et s'il s'agit de l'ouvrir seulement après 62 ans, ça s'apparente plutôt à un dispositif de cumul emploi-retraite, c'est-à-dire continuer à travailler, au besoin à temps partiel parce qu'on est trop usé par le travail, mais qu'on n'aura pas accumulé suffisamment de points pour bénéficier d'une pension décente.
Conditions d'accès, âge limite, valeur du point acquis dans la période sont autant d'inconnus, sans oublier les questions connexes, mais tout aussi cruciales, souligne l'économiste Annie Jolivet, chercheuse au CNAM.
Est-ce qu'on a la possibilité de cotiser sur la base du temps plein ? Donc le salarié de son côté et puis l'employeur par ailleurs. Est-ce qu'on prend en compte la base du temps plein aussi pour des questions de prévoyance, pour les primes de licenciement ?
Avec cette difficulté particulière, souligne l'économiste, si ces questions font l'objet d'accords d'entreprise, la fonction publique, elle, n'a pas le même type de négociation sociale. En tout cas, les syndicats de fonctionnaires attendent des explications sur la manière dont le gouvernement envisage ce dispositif. À cette heure, personne n'en a.
C'était Catherine Pétillon. Gallimard arrête la commercialisation du journal de Gabriel Matzneff. L'écrivain fait, je vous le rappelle, l'objet d'une enquête pour viol sur mineur. Il est mis en cause dans le livre d'une éditrice racontant sa relation sous emprise avec lui quand elle avait alors 14 ans. Seul le sud de la France sera au sec aujourd'hui, sous une ligne allant de Bordeaux à Lyon. Ailleurs, au-dessus donc de cette ligne, les averses vont durer toute la journée, en particulier de la Bretagne jusqu'au Pays de la Loire et jusqu'aux frontières belges et allemandes. Comptez 3 degrés ce matin à Strasbourg, 4 degrés à Lyon, 9 à Bordeaux, 11 degrés à Rennes, Paris, Lille et à Perpignan.
Il est presque 6h40. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Nous vous retrouvons pour les enjeux internationaux sur France Culture. Et ce matin, Julie, vous vous penchez sur le procès d'un leader kurde à Ankara.
Oui, il a commencé hier ou recommencé car Selahattin Demirtas est sous le coup de plusieurs procédures judiciaires depuis son arrestation fin 2016. Ancien député, coprésident du Parti démocratique des peuples, le HDP, qui est le principal parti pro-kurde de Turquie, il est accusé par le gouvernement de diriger une organisation terroriste, de propagande terroriste et d'incitation à commettre des crimes. Pour Recep Tayyip Erdogan, le Parti démocratique des peuples est la vitrine politique du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dont l'insurrection armée a fait dans les années 80, depuis les années 80, quelques 40 000 morts et qui continue de temps en temps à revendiquer une attaque, notamment contre les intérêts militaires turcs, malgré un dialogue amorcé en 2012. Alors les Kurdes de Turquie ne sont pas les Kurdes de Syrie, même s'ils leur sont liés d'une manière ou d'une autre, mais dans le cas du procès de Selahattin Demirtas, comme de celui de l'offensive turque dans le nord syrien en octobre, la logique est la même pour Erdogan, la question kurde est une question sécuritaire. Bonjour Ahmet İnsel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et politiste turc. Vous avez publié La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire aux éditions La Découverte. Tout d'abord, qui est Selahattin Demirtas? Je dois préciser ici que vous le connaissez bien. Qui est-il et que représente aujourd'hui le Parti démocratique des peuples, le HDP, dont il reste une figure de proue malgré sa détention?
Selahattin Demirtas est un politicien juriste. Il a été longtemps avocat au barreau de Diyarbakır et travaillé dans le cadre de l'Association des droits de l'homme. Il est devenu, au début des années 2000, il a été élu député en 2007, député indépendant dans un premier temps. Et à partir de 2011, il a été président, co-président, parce que le Parti kurde tient à ce que, à tous les instances, qu'il y ait une homme et une femme co-présidente dans le parti. Donc, il a été co-présidente du parti à partir de 2011 et il a été candidat contre Tayyip Erdogan pour la première élection au suffrage universel du président de la République en 2014.
Avec quel résultat pour lui?
Il a eu 8,5% des voix, il a eu une campagne très importante et l'année suivante, en 2015, son parti a réussi à obtenir 13% des voix aux élections législatives en juin 2015 et ça avait empêché Tayyip Erdogan pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2002, de perdre la majorité parlementaire. Cette réussite du HDP, dont Demirtas était un des maîtres d'œuvre par la campagne qu'il avait poursuivie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Tayyip Erdogan lui fait payer essentiellement le prix de cette défaite.
C'est ce que disent les partisans et défenseurs évidemment de Demirtas, que son seul crime, c'est d'être l'opposant le plus à même d'affronter Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que ça vous semble plausible, Ahmet İnsel, aujourd'hui qu'un Kurde puisse remporter des victoires électorales telles qu'il représente un danger pour le président turc dans un pays où les Kurdes restent quand même une minorité?
C'est un... pas encore, mais pas encore. 15% à peu près.
Oui, mais est-ce que c'est un parti qui séduit au-delà de l'électorat kurde?
Oui, exactement. Il y a deux choses. D'une part, le parti HDP, le Parti démocratique des peuples, est un parti qui mobilise un électorat kurde essentiellement, évidemment, mais en même temps, la gauche socialiste fait alliance. Il y a des membres, par exemple, actuellement, le président, le coprésident du parti n'est pas un kurde, c'est une femme, c'est la coprésidente est une kurde, mais le coprésident est d'origine turque. Et d'autre part, il y a un électorat de gauche qui soutient ce parti HDP, qui fait que, comme je vous ai dit, en 2015, le parti a obtenu 13% des voix. Dans des conditions très très difficiles, les années suivantes, ce parti a obtenu toujours plus de 11% des voix, plus de 10-11% des voix. Alors, Demirtas, personnellement, représente un danger pour Tayyip Erdogan, non pas d'être élu à la place de Tayyip Erdogan, je ne pense pas qu'il dispose d'un soutien, pour le moment encore, d'un soutien suffisant pour obtenir plus de 50% des voix, mais il est capable, il est un des hommes politiques aujourd'hui capable d'empêcher l'élection de Tayyip Erdogan dans une coalition en faisant partie d'une coalition démocratique.
Son parti, le HDP, pardon, Ahmet İnsel, a par ailleurs remporté des élections municipales dans une soixantaine de communes, je crois, et 22 maires ont été dessaisis récemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on dessaisit un maire élu en Turquie?
Malheureusement, la Turquie n'est pas, actuellement, il n'y a pas l'état de droit en Turquie. Il y a un état de fait, il y a un état de l'arbitraire, et le ministère de l'Intérieur décide, sous l'argument toujours de lutte contre le terrorisme, parce que vous savez que comme pour Demirtaş et pour des centaines, des milliers de cadres du parti HDP, l'argument lutte contre le terrorisme est devenu vraiment le couvre-sexe de cette dictature ou de cet arbitraire du pouvoir. Et effectivement, le ministère de l'Intérieur décide, sous prétexte d'ouverture d'une enquête pour soutien au terrorisme par le parquet, immédiatement dessaisir, avant même la condamnation des personnes, dessaisir les maires et nomme la plupart du temps le préfet ou le sous-préfet à la place comme administrateur. Et c'est une manière pour Tayyip Erdogan, qui dirige directement cette opération, je crois, en tout cas on le voit, c'est une manière de dessécher, d'empêcher HDP de mener une politique municipal de renforcement de base, mais pour le moment, ceci n'a pas donné de résultats attendus de la part de Tayyip Erdogan, puisque HDP, aux dernières élections municipales, avait regagné la totalité quasiment des municipalités qui avaient subi avant 2019 le même sort par le pouvoir, c'est-à-dire maire élu, dessaisi, nommé et un administrateur nommé à sa place.
Alors vous parlez au sujet de la Turquie d'un état de fait. L'état de droit n'existe pas, dites-vous, c'est un état de fait. Le détenu, pardon, Selahattin Demirtaş a commencé hier sa déposition en parlant du système d'Erdogan comme un système de chaos dans lequel plus rien n'est possible, où personne ne peut exiger de compte. Vous avez suivi le début du procès dans la presse turque. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour l'instant?
Demirtaş a fait une défense très politique, en soulignant d'abord que ce procès est exclusivement politique et, selon la Constitution, poursuivre les personnes pour des raisons politiques est anticonstitutionnel, est un crime. Il a d'autre part attaqué directement le régime de Tayyip Erdogan qui s'est mis en place à partir du changement constitutionnel de avril 2017 en bien soulignant qu'il s'agissait d'une autocratie compétitive et il a souligné effectivement que dans cette autocratie, c'est-à-dire la direction où tous les pouvoirs sont dans les mains d'une personne, il s'agit d'un chaos, que toutes les institutions de l'État turc sont détruites ou vidées de leur substance. Et il a encore souligné que, évidemment, qu'il n'a pris d'ordre d'aucune autre instance que la direction de son parti et le mandat du peuple. Il a réfuté toute accusation de collusion avec d'autres organisations, quelles qu'ils soient. Et il a souligné surtout que l'objectif de son parti, et son objectif, est de faire partie d'une coalition démocratique qui arrivera au pouvoir pour enfin libérer la Turquie de ce joug de l'arbitraire. Et il a accusé Tayyip Erdogan d'être un peu usurpateur, en soulignant que on n'est même pas sûr qu'il dispose vraiment d'un diplôme universitaire qui est nécessaire pour la Constitution turque pour devenir président de la République. Donc il était dans une posture de tribun, y compris, il a utilisé le tribunal pour comme un lieu de message de lutte contre l'erdoganisme.
Alors Erdogan, je ne sais pas s'il va brandir ses diplômes pour répondre à l'affront de Selahattin Demirtas. En tout cas, il n'a jamais répondu aux exhortations de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il a à plusieurs reprises sommé de libérer le leader kurde, au motif, dit-il, Erdogan, que son parti est la vitrine politique du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qu'Ankara et les Occidentaux considèrent comme terroriste, qui a de longues années durant mené des attaques et une guérilla contre les intérêts turcs, tuant également des milliers de civils. Quelle est la nature des liens qui existent aujourd'hui entre le PKK et le parti de Demirtas?
Normalement, il n'y a pas de lien direct entre PKK et parti de Demirtas. Mais en revanche, dans le chef d'accusation, une des pièces qui est utilisée par le procureur pour accuser Demirtas, c'est d'avoir visité les dirigeants du PKK à Kandil, et une photo où Demirtas a rendu la visite. Mais il faut rappeler que cette visite, comme la plupart des visites qui ont été faites à l'époque en 2014, a été autorisée par le gouvernement turc dans le cadre d'une négociation de paix. Il y avait un processus de négociation de paix, et il y avait des journalistes turcs, des gens chargés par le gouvernement turc d'aller à Kandil, en Irak, négocier avec les dirigeants du PKK ou avec le chef historique du PKK qui est en prison. Et donc, du coup, c'est dans le cadre de ces négociations que Demirtas aussi a pu avoir des contacts avec les dirigeants du PKK. Mais directement, il n'y a aucune preuve dans son dossier d'une soumission, d'une prise d'ordre, d'une direction du PKK sur l'HTP. Alors, il peut y avoir, par contre, PKK est une organisation qui utilise à la fois des moyens militaires armés, parfois des actions terroristes, et il dispose d'une base sociale, d'un soutien populaire, évidemment. Peut-être, on ne sait pas combien, et il peut y avoir dans la base électorale du HTP des sympathisants du PKK, probablement. Mais de là à souligner, à affirmer que HTP est une sous-marin du PKK, c'est une tactique qu'on a utilisée beaucoup, comme vous savez, dans la plupart des pays où les minorités ont été réprimées.
Alors, cet entretien a été l'occasion à Ahmet İnsel de faire aussi un point, de reparler des Kurdes de Syrie, dont nous avons beaucoup parlé en octobre à l'occasion de l'offensive turque jusqu'en novembre, et puis dont on ne parle à nouveau plus beaucoup. Il y a les Kurdes syriens qui sont liés au PKK par l'intermédiaire des YPG, les unités de protection du peuple, ou des PID, les milices kurdes syriennes qui donc ont été créées en 2005 par le PKK, qui ont encore un lien avec elles. Mais il y a aussi le Conseil national kurde de Syrie, cette coalition de partis qui ne sont pas affiliés au PKK, qui se retrouvent aujourd'hui dans une position de faiblesse. Comment vont-ils aujourd'hui? Quelles nouvelles avez-vous après 2 mois après cette offensive, dont Erdogan s'est quand même félicité, même après l'accord avec les Russes, l'armée turque a pu rester ici et là. Voilà, quelles nouvelles avez-vous des Kurdes syriens?
Alors évidemment, actuellement, en Syrie, les attaques du régime et avec l'appui de la Russie se fait surtout en Idlib, et la frontière sur la Turquie est devenue un peu plus calme actuellement. Il y a une sorte de modus vivendi qui s'est installé. Et les organisations kurdes et les forces armées kurdes de la région ont été retirées de 30 kilomètres au sud de la frontière turque, mais certaines villes frontières sont restées sous contrôle en partie des Kurdes, en partie du régime, avec la protection russe. Le problème, c'est que les Américains, aujourd'hui, deviennent de plus en plus inefficaces dans la région, et l'appui principal des Kurdes de Syrie dans leur organisation autonome militaire administrative au nord de la Syrie, s'était fait par l'appui américain. Et comme Trump a décidé de se retirer de la Syrie d'une manière totalement inattendue il y a un an à peu près, les Kurdes de Syrie aujourd'hui sont en train de négocier avec le régime de Assad pour pouvoir disposer d'une certaine reconnaissance de leur identité nationale, une petite peut-être autonomie locale, et peut-être les forces armées kurdes vont s'enrôler dans les forces de régime syrien avec une certaine autonomie. Mais tout ceci ne sont que, pour le moment, des hypothèses de négociation.
Est-ce que, on a entendu encore dans le journal de Clara Lecoq-Réal, les États-Unis sont évidemment occupés ailleurs pour l'instant. Des roquettes sont tombées encore cette nuit sur une base militaire américaine en Irak. Est-ce que les tensions très vives depuis quelques jours entre les États-Unis et l'Iran peuvent avoir des conséquences en Irak et en Syrie et peut-être en Turquie pour les Kurdes? Et pourquoi?
Pour la Syrie directement, les conséquences, c'est comme je disais tout à l'heure, si l'armée américaine se recule totalement de la Syrie, d'ailleurs leur présence s'était beaucoup affaiblie, et si l'armée américaine se retire de l'Irak, puisque pour intervenir en Syrie, l'armée américaine a besoin d'une base irakienne, et dans ce cas-là, les Kurdes de Syrie auront besoin encore plus, seront contraints de négocier et de rentrer dans le rang du régime syrien pour pouvoir assurer leur protection face à la Turquie, qui est dans une position agressive vis-à-vis des forces kurdes syriennes, puisque le Tayyip Erdogan et l'État turc, au-delà de Tayyip Erdogan cette fois-ci, l'État turc et les nationalistes turcs, c'est pas simplement les islamistes, mais les nationalistes turcs aussi, accusent le nord de la Syrie, pour eux, constitue un danger pour la sécurité nationale, pour la sécurité de l'État. Et cette relation du PKK avec YPG ou les organisations milices kurdes syriens sont exagérées pour signifier un danger potentiel pour la Turquie, alors que jusque-là, la Turquie n'a subi aucune attaque, aucun danger direct depuis sa frontière syrienne. Depuis 2011-2012.
Merci beaucoup Ahmet İnsel d'avoir été avec nous ce matin pour en parler. Et puis Selahattin Demirtaş a publié deux livres qui sont parus ici en France, traduits, édités par Emmanuel Colas, et je les cite, c'est L'Aurore, écrit en prison, paru en 2018, et puis plus récemment Et tournera la roue. Je vous remercie Ahmet İnsel et je vous souhaite une très bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent « En lisant, en écrivant », une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Mardi 14 janvier à 18h30, retrouvez le romancier et scénariste anglais Ian McEwan lors d'une rencontre animée par Sylvain Bourmeau. Entrée libre, dans la limite des places disponibles, à la BNF François Mitterrand, Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Et alors, quelle est votre humeur du jour? Je n'en sais rien.
Jacques Dessange nous a quittés. C'est une triste nouvelle, c'est un coiffeur des stars. Un coiffeur des stars qui n'est plus, mais ça en réalité c'est un détail, car il y a infiniment plus important dans l'offre de Dessange. Alors, Dessange s'est attaqué à l'un des problèmes économiques les plus sérieux. Oui, je suis sérieux, la productivité de la coiffure. Alors, dit comme ça, évidemment, vous avez un peu la frange dans les yeux, Julie, vous voyez pas de quoi je veux parler. Pour le comprendre, il faut faire un détour par un auteur oublié aujourd'hui, l'économiste Jean Fourastier. On lui doit l'expression des 30 glorieuses. 30 glorieuses pour signifier que soudainement, le niveau de vie des Français s'est accru, notamment parce que la productivité s'est accrue de manière gigantesque à cette époque-là, entre 45 et 75. Les Français ont gagné plus parce qu'ils produisaient plus. Bon, la période était évidemment productiviste. Les chiffres de Fourastier sont absolument ébouriffants. À l'époque, par exemple, il dit qu'un agriculteur qui nourrissait 1,7 personnes en 1700 en nourrissait 26 en 1975. Alors évidemment, ça posait toute une série de problèmes d'engrais, de chimie, etc. Mais ça n'était pas à l'époque la question que se posait Fourastier. En tout cas, les individus ont produit Plus, leur niveau de vie a bondi. Grâce à la mécanisation, un homme seul faisait le travail de 25 hommes en 1900 et 124 en 1975. Alors à ce stade de la démonstration, vous vous dites très bien, mais quel est le rapport avec Jacques Desange ? Eh bien le voilà, Julie, la productivité s'est accrue dans tous les domaines sauf un, la coiffure. Parce qu'un agriculteur pouvait produire beaucoup plus dans un champ. En revanche, un coiffeur, expliquait Jean Fourastier, ne pouvait pas couper plus vite les cheveux, et ce, même s'il existait, par exemple, des tondeuses. Eh bien, cela ne faisait pas que la coupe était plus rapide. Et du coup, Fourastier a raconté l'histoire de la productivité en prenant un étalon, celui de la coupe de cheveux, et c'est encore quelque chose qui fonctionne, puisque si je vous cite une anecdote personnelle, je me suis fait couper les cheveux en Espagne, cela m'a coûté 9 €, dans la Drôme ça me coûte un peu moins de 20 €, et à Paris ça me coûte 25 €, preuve que la coiffure est encore un très bon étalon du niveau de vie et du pouvoir d'achat des individus. Voilà en quoi un coiffeur peut montrer un économiste qu'il a raison ou qu'il a tort.